encore deux récits à lire avant l'arrivée à la montagne. L'histoire d'Amalek et puis la rencontre de Jéthro. Pour nous, il ne reste qu'un, parce que je me mets sur la tradition juive qui considère que le sommet de ce livre-là, le don de la Torah, c'est la paracha de Jéthro. Et vous verrez qu'on commence par Jéthro et ce n'est pas par hasard, je vous montrerai ça tout à l'heure. Il me reste encore un texte à lire qui se passe aussi à Rephidim. Puis vous voyez, le soleil est de plus en plus accablant et on ne peut pas trouver d'endroit que l'ombre se rétrécit. Alors je propose qu'on lise ici, avant de se remettre en route pour la dernière étape, le combat avec Amalek, là, qui commence au verset 8 du même chapitre 17 et qui se passe aussi à Rephidim. Les Amalécites. Alors les Amalécites, bah, c'est les pires des ennemis. C'est ceux qui ont massacré les femmes et les enfants fatigués à l'arrière-garde. Alors ça, il ne faut pas faire de quartier. Hein. Alors il y a une progression, hein, le pardon, ce n'est pas si simple. Je me rappelle le père Dagoné, là, qui est mort maintenant, qui travaillait à la télévision, l'un de tes prédécesseurs, là. Il vient me trouver un jour, il faut que je fasse un sermon à Oradour-sur-Glane. Vous vous rendez compte, qu'est-ce que je vais dire? C'est pas si simple hein, de parler du pardon. Nous chrétiens, on en parle parce qu'on trouve les énergies là de. On fait pour les autres ce que Dieu a fait pour nous. Mais dans l'Ancien Testament, regardez l'histoire de Joseph. Hein. L'histoire de Joseph, il ne pardonne pas tout de suite, il leur fait des tours de cochon même. Et c'est seulement quand Judas, il y a un sentiment d'humanité qui s'échappe de son cœur, je ne peux pas retourner chez mon père sans le petit Benjamin.
Il y a une pédagogie du pardon.
Une pédagogie du pardon. Et alors à ce moment-là, Joseph se contient plus et il pardonne d'une façon tellement totale et gratuite que les frères n'arrivent plus à y croire. Et nous, c'est comme ça que Dieu procède. Il nous pardonne aussi de façon tellement gratuite. Là. Et il y a un étonnant rapprochement entre Jésus ressuscité qui apparaît à ses apôtres qui n'avaient pas eu l'attitude très honorable pendant la passion et qui leur dit la paix soit avec vous. Et puis Joseph, qu'on croyait mort et qui apparaît à ses frères et qui se réconcilie avec eux, il n'arrive pas à y croire. Et Joseph leur dit, quand ils se remettent en route, vous ne disputez pas en route. Maintenant que je vous ai pardonné, la question n'est pas de savoir qu'est-ce qui est responsable. On pardonne comme Dieu nous a pardonné. Mais ça, c'est au terme de toute une pédagogie. Voyez. Alors Amalek, il faut effacer son nom de dessous.
Dans toute la Bible, d'ailleurs, Amalek revient comme l'ennemi.
Alors, c'est l'ennemi par excellence. Enfin, David, Saül est déboulonné de la royauté parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui avait commandé. David se rattrape au début, avant de régner contre les Amalécites. Et puis, c'est très curieux cette évolution. Bah, Saül, lorsque Samuel le réprouve, il dit « Ce que Dieu veut, c'est l'obéissance et non le sacrifice. Bah, » La désobéissance est pire que l'idolâtrie, et l'obéissance, ça consiste à supprimer les Amalécites. Et cette même phrase, bah, au terme d'une évolution, sera reprise dans Osée et dans les Évangiles. « Je veux la miséricorde et non le sacrifice. » C'est très curieux. Comment est-ce que... Voyez, on arrive à... C'est ça qui est merveilleux dans la Bible. C'est que Dieu prend les hommes tels qu'ils sont, là où ils en sont. Il n'y a pas de perfectionnisme. Et c'est petit à petit qu'il les amène à cette perfection évangélique. Les psychologues là, disent qu'une des pires maladies dont on est victime, c'est le perfectionnisme. Ce sont des gens qui manient un beau langage, de beaux principes, et puis ils ne se rendent pas compte qu'ils se mettent le doigt dans l'œil parce qu'ils ne les pratiquent pas eux-mêmes. Et puis, ou bien alors ils s'aperçoivent qu'ils ne les pratiquent pas et ils deviennent mauvais, ils passent leur temps à battre leur meilleur culpa. Et toutes les énergies qu'ils devraient employer à progresser, ils les retournent contre eux, c'est ce qu'on appelle le masochisme en fin de compte. Et si ça ne s'aime pas eux-mêmes, ils n'aiment pas non plus les autres, ça empoisonne toute l'atmosphère. Et bien la Bible est le remède à cette maladie du perfectionnisme. Elle nous apprend à faire comme Dieu, à prendre les hommes de chair et de sang tels qu'ils sont, là où ils en sont, et progressivement leur apprendre à concentrer, polariser leurs énergies pour la construction de la paix, qui est en fin de compte un équilibre de force. Alors, on va continuer ici à Amalek, petite parenthèse sur Amalek. Alors, il sortit pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse tenait les mains levées, Israël l'emportait, et quand il les laissait retomber, Amalek l'emportait. Un magnifique symbole de la puissance de la prière. Comme les mains de Moïse s'alourdissaient, ils prirent une pierre et la mirent sous lui. Il s'assit dessus, tandis qu'Aaron et Hur lui soutenaient les mains d'un côté comme de l'autre, ainsi ses mains restèrent-elles fermes. Jusqu'au coucher du soleil. Ici, il y a un mot hébreu que vous connaissez tous, ferme. C'est Emouna. Il devient Amen, Amen.
Ah, oui.
Ses mains restèrent Emouna jusqu'au coucher du soleil. Josué défit Amalek et son peuple au fil de l'épée. Dieu dit alors à Moïse, écris cela dans un livre pour en garder le souvenir. Alors ici, nous arrivons à quelque chose d'extrêmement important. On a vu l'importance de la mémoire dans l'identité du peuple élu et sa persistance dans la durée à travers les siècles d'histoire. On a vu déjà ce qui est au service de la mémoire par le nom, le mémorial. Ici, on voit quelque chose qui va devenir de plus en plus important dans le jeu de la mémoire, c'est le livre. Le livre. Le livre qui n'apparaît qu'à un certain temps, qui ne contiendra jamais tout, mais qui devient un instrument privilégié de la mémoire. Tenez, ici, je ne veux pas vous faire des conférences là-dessus, mais c'est tellement important. Je me rappelle les cours du père Liégé. Tu n'as pas connu, c'est un... il est mort très jeune, là. J'ai eu la chance de l'avoir comme professeur, bien qu'on soit presque du même âge. Et il faisait des conférences là-dessus, sur ce sujet extrêmement important, des rapports entre la tradition vivante, pas le dialogue du peuple élu avec le Dieu vivant, et puis le livre. Et il disait que 80% des problèmes qui se posent dans l'apostolat, dans la prédication, dans la catéchèse, c'est que le livre n'était pas à sa place. Ou bien on lui demande trop, comme certains fondamentalistes qui le feuillettent et qui en sortent n'importe quoi, n'importe quand. J'en ai connu comme cela. Je me rappelle, il y avait comme ça, j'en ai connu comme ça, des gens qui ouvraient la Bible n'importe où, n'importe quand, ont baladé une exposition biblique autrefois en France, toujours avec le même père d'Agodé dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on avait souvent des descentes là, de fondamentalistes, certains étaient assez agressifs, et ils faisaient la figure pas seulement des thèmes, mais des numéros. Alors il fallait aller chercher, qu'est-ce que c'est Daniel 3-4, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. Et, alors, il y avait une femme, je me rappelle, qui criait plus fort que les autres, c'était chercher dans l'épître aux Corinthiens, l'endroit où Paul dit « je veux que la femme se taise dans l'église ». Alors, il faut trouver des réponses à la hauteur de la question dans ces cas-là. Il n'y a pas moyen de sortir autrement. Bien à côté de ça, heureusement que c'est plus comme ça, mais quand je suis rentré dans l'ordre, on m'a donné une liste de livres à lire. Il y avait Aristote, etc., tous les grands auteurs. Et puis la Bible était parmi ces auteurs-là, comme si... Et il fallait traverser un désert encore pire que celui-ci avant de commencer à faire de la théologie et de l'écriture sainte. Et les cours d'écriture sainte qu'on avait, c'était des cours d'apologétique pour défendre l'authenticité mosaïque du Pentateuque et puis la question synoptique. Et on n'était pas... Nous, heureusement qu'il y avait la liturgie. Alors ce grand fleuve liturgique, pas des heures, jour et nuit à ce moment-là, hein. Mais on n'aurait pas eu ça. Une vie religieuse peut-elle exister sans qu'elle soit nourrie constamment de la parole de Dieu? Enfin, on était vraiment sevré là. On faisait l'organon d'Aristote, le Périrménéia. T'as pas connu ça, toi?
Moi, j'en ai fait quelques petits morceaux aussi, quand même.
Enfin. Bon, il y a les deux extrêmes. Il faut trouver un équilibre entre les deux extrêmes. Alors, le père Léger fait une comparaison qui m'a éclairé énormément, très simple. Il disait, il m'arrive qu'il faut d'avoir des idées. Et alors, quand ça m'arrive la nuit, j'arrive plus à m'endormir. Il faut que j'accouche de l'idée, sans ça, ça ne va plus. Alors, j'ai toujours un petit bloc-notes, et puis je griffonne comme ça. Évidemment, il y a une déperdition formidable de ce que je pense, et puis ce que j'arrive à formuler, ce que j'arrive à mettre sur le papier. Mais alors, après ça, ma chambre dans un certain désordre, disons, je n'ai pas eu le temps de la ranger, mais quelquefois je dois changer de couvent, je suis obligé de faire un déménagement. 10 ans après, je retrouve le petit papier. Et chose curieuse, ce petit papier, il me fait rebondir dans ce que je pensais quand je l'ai écrivé. Il y a quelque chose comme ça qui se passe. Il y a un dialogue depuis les origines du monde entre le Dieu vivant et les hommes de chair et de sang. Et puis alors, à un certain moment, l'alphabet, l'écriture n'a pas été inventé tout de suite, ça a mis très longtemps. Ensuite, ce dialogue a laissé des traces dans le livre, dans l'écriture, et puis dans les rédactions successives, dans un livre, celui que nous avons dans les mains maintenant. Et ce livre jamais ne contiendra toute la richesse. Saint Jean dit, en terminant son évangile, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais le monde entier ne suffirait pas. Mais alors, le livre est un moyen formidable pour rebondir et rejoindre ce dialogue entre le Dieu vivant et les hommes de chair et de sang. Seulement, il faut le lire dans une tradition. Et je crois que nous sommes héritiers, que nous sommes de la tradition juive. Enfin, l'Égypte ne conçoit pas qu'on puisse séparer la Torah chez Birtav, c'est comme ça qu'ils appellent le texte écrit, et la Torah chez Baalpé, la Torah, la tradition orale. Et ça, l'Église a maintenu ça mordicus. Et je crois qu'actuellement, les dissensions entre catholiques et protestants ne sont plus à ce sujet-là. Parce que tous manient tant soit peu les méthodes historico-critiques. Et c'est tellement évident, pas qu'une tradition orale précède l'écriture, et puis la mise par écrit, les rédactions successives, et puis le livre que nous avons maintenant. C'est sur la question du magistère. Ça, je ne l'aborde pas maintenant. Mais c'est trop évident, pas qu'il y a, que la tradition vivante et le texte écrit sont indissociables. Et qu'il faut maintenir ça. Il y a un équilibre à trouver. Et si on ne trouve pas cet équilibre, alors là, fois la Bible, on peut lui faire dire n'importe quoi, on s'en est pas privé. Il écrit cela dans un livre pour en garder le souvenir. Je crois que là c'est très important, c'est à noter au passage. Alors maintenant, il n'y a plus de récits importants qui nous séparent de la paracha Yitro, où commencent les récits autour de la montagne. Alors on va continuer, et puis on va lire les textes là autour de la montagne. On va y rencontrer Moïse et Élie. Et puis ensuite, on partira et on lira les textes après la montagne.
À propos de la tradition, il y a la tradition antérieure, la tradition orale qui a précédé l'écrit du livre.
Oui.
Puis, je pense que c'est très riche aussi la tradition judaïque, la tradition qui a commenté le livre. Oui. Il y a aussi toute la tradition de l'Église, la tradition patristique aussi.
Oui. Mais alors maintenant, c'est très curieux, c'est un converti du protestantisme qui dit ça, hein, le père Bouillet, un oratorien. Il dit, c'est curieux, les catholiques, quand ils lisent l'Ancien Testament, ils deviennent protestants. Ils n'attachent aucune importance à la tradition orale. Et alors ceux qui actuellement, à l'école des Juifs, se mettent à explorer par le Midrash, la tradition juive, sont émerveillés de tout ce qu'ils découvrent. Il y a là un mode de pensée. Un mode de pensée. Et c'est pas parce que le Christ est mis entre parenthèses dans la tradition juive que ce mode de pensée n'est pas le mode de pensée le plus apte à penser la richesse de nous révélée. Ça vous interrogerait là-dessus, les gens qui y travaillent. Marcel Dubois, là, vous parlera de ça beaucoup mieux que je ne suis capable de le faire.
Ils le mettent entre parenthèses parce que bon, ils le reconnaissent pas, enfin, ils l'ont pas. Oui. Mais en même temps, des fois, il y a des passages géniaux que nous, on peut le lire.
Moi, je les écoutais parler de même à l'université pendant plusieurs années, et ils m'en parlaient tout sauf de Jésus, et puis en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'être comme projeté, et de faire un inventaire du Nouveau Testament, comme je ne l'avais jamais fait auparavant dans mes études au Solchoir ou ailleurs. C'est tout à fait curieux, ce phénomène-là.
Ils le disent malgré
eux. C'est eux qui ont la clé de notre compréhension du Nouveau Testament. Ça, c'est très curieux.